Radio Classique, la revue de presse avec David Abiker.
Et à la une, Marseille, David.
Marseille sur le double front de la sécurité. Premier front, les grands événements organisés dans les mois qui viennent. Il va se passer beaucoup de choses à Marseille. C'est la une de la nouvelle formule de la Provence qui titre le grand défi. Le grand défi, c'est d'assurer la sécurité des dizaines de milliers de Marseillais, de touristes et de fidèles qui vont successivement rejoindre la cité phocéenne qui accueillera la visite du pape le 23 septembre prochain, le mondial du rugby le même mois, sans oublier les Jeux de 2024, les Jeux Olympiques. Il y a les défis à relever pour les autorités. Et puis il y a, à la une du Parisien aujourd'hui en France, ceux qui défient carrément les autorités marseillaises.
Le Parisien titre à Marseille, les tueurs sans limite.
Tout a été dit ou publié sur la guerre des gangs à Marseille de façon presque caricaturale, souvent caricaturale, sur ces trafiquants et tueurs toujours plus jeunes, sur la circulation de la drogue et des armes, sur ces 22 meurtres depuis le début de l'année. Toutefois, le dossier du Parisien montre qu'un cran a été franchi avec l'usage des réseaux sociaux. Snapchat, Instagram, TikTok. Les bandits ne se cachent plus. Pire, les médias en ligne leur servent à recruter, commanditer des meurtres, intimider les clans adverses, voire filmer leurs crimes. Le Parisien aujourd'hui en France parle désormais d'influenceurs du crime. Exemple avec des vidéos récentes où deux clans rivaux ont diffusé la vidéo de leur arsenal. Tu me montres tes Kalachnikovs sur Instagram, je te montre les miennes. C'est le clan DZ Mafia contre le clan Yoda Clan. Les réseaux sociaux également, c'est pratique pour souder la troupe, observe le Parisien aujourd'hui en France, pour communiquer avec des membres en cavale, en prison ou à l'étranger. Pire, les images diffusées sur Internet aident certains tueurs à gages à prouver l'exécution du contrat. Le comble est atteint lorsqu'en page 3 du journal, vous lisez ceci, j'ouvre les guillemets. Matteo F., jeune tueur mis en examen en avril pour 3 meurtres, mais soupçonné de 6 ou 7 autres, recevait en sus de son fixe une prime en fonction des retombées médiatiques. Le tarif était de 20 000 euros par contrat, mais cela pouvait monter jusqu'à 50 000 euros selon le nombre de vues sur Instagram, affirme un enquêteur. Je ferme les guillemets. La rapidité des vengeances est facilitée par l'utilisation des applications numériques, analyse la procureure de la République. Une agression filmée et diffusée sur les réseaux sociaux d'un membre d'un clan est rapidement suivie de représailles également postées sur les réseaux sociaux et ainsi de suite.
Après les défis marseillais, Prigogine défie Poutine, c'est dans le monde.
C'est la une du monde aujourd'hui, le patron de la milice Wagner défie l'État russe. Et le monde cite les propos récents de l'homme d'affaires ultranationaliste, autrefois considéré comme un proche de Poutine, écoutez bien ce qu'il dit. On est arrivé en Ukraine comme des bourrins. On a marché sur tout le territoire avec nos grosses bottes en cherchant des nazis. On a tapé sur qui on pouvait. On a avancé jusqu'à Kiev. On s'est chié dessus et on s'est retiré. L'Ukraine a aujourd'hui l'une des armées les plus puissantes du monde. Nous sommes dans une situation où nous pouvons tout simplement perdre la Russie. Selon le correspondant du Monde à Moscou, en tenant ses propos le 24 mai dernier, Prigogine a franchi un cap dans la défiance envers l'état-major russe, mais aussi envers Poutine. Comme les bandits marseillais, Prigogine se filme lui aussi sur le front, en uniforme, les pieds dans la boue, parfois devant le cadavre de mercenaires Wagner, histoire de rappeler aux élites russes qu'elles se planquent. Que veut Prigogine, s'interroge le Monde. Il rêve d'un état militaire, d'une Russie qui bascule en économie de guerre, d'une dictature provisoire à la nord-coréenne. Pour une politologue russe interrogée par le journal, le chef de Wagner se positionne dans la transition en cours au sommet de l'État, où la place du président Poutine est désormais en retrait. Cela ne veut pas dire que Prigogine veut le pouvoir. Il s'assure simplement un espace politique pour conforter ses positions au cas où. Ce qui interpelle, c'est le silence de Poutine lorsque, par exemple, Prigogine traite publiquement un de ses ministres et ami, Sergueï Choïgou, de salope. Dans le système personnalisé mis en place par Poutine, analyse le Monde, les conflits de ce type jouent un rôle de régulateur et de contre-pouvoir. Poutine arbitre en dernier ressort. Sauf qu'en l'espèce, l'arbitrage entre l'armée officielle et le mercenaire Wagner tarde à venir et laisse un espace à l'ambitieux restaurateur.
Avec un Poutine qui émeut après la jungle marseillaise de maquis politique.
Le maquis politique, comment Bruno Le Maire entretient ses réseaux en vue de la présidentielle ou d'une nomination au poste de Premier ministre, c'est à la une du Parisien. Les habits neufs du Rassemblement National, c'est la une de la Croix. Les bisbilles entre Borne et Macron, c'est dans le Figaro. Un jour je te tacle, un autre jour je te réitère ma confiance. Enfin, l'Assemblée qui n'en finit pas de digérer la réforme des retraites et où Renaissance s'emploie à neutraliser l'initiative législative du groupe Liotte. C'est pathétique et Nicolas Bétou parle à ce propos d'un groupe de députés sans domicile fixe qui a eu cette idée saugrenue de défaire ce que le Parlement venait de faire, en l'occurrence porter l'âge du départ en retraite à 64 ans. L'éditorialiste parle d'une bataille de nains, et il a bien raison. Néanmoins, le Parlement sert à ça, à parler, pour résoudre les conflits. C'est la une de Philosophie Magazine. Aux batailles de nains, la France ferait mieux de s'occuper de ses géants. Je veux parler des arbres. À la une du Républicain Lorrain, des communes signent des chartes pour les droits des arbres. Une météo pour les forêts pour prévenir les incendies, c'est la une de l'Ardennais et de l'Union. Enfin, jolie une de Libération sur nos forêts, qui perdent ce super pouvoir qui consiste à absorber le CO2. Les chercheurs ne comprennent pas pourquoi, alors que la forêt française s'étend, les arbres absorbent en proportion moins de CO2 qu'il y a 10 ans. Libération parle d'un puits de carbone bientôt à sec. En fait, nos arbres poussent, ils sont nombreux, mais leur santé est mauvaise et ils absorbent le carbone beaucoup moins bien. Pensez-y ce week-end quand vous vous promènerez.
Merci mille fois. Il est 8h42. Nous avons rendez-vous avec François-Olivier Gisbert. La revue de presse a été signée comme d'habitude avec talent par David Abiker. David, bon...